7h30, comme annoncé ce matin, durant une 30 minutes, donc une demi-heure, on va s'arrêter avec nos invités. Comme c'est une coutume, une fois par mois, les années communautaires, en direct, on reçoit des invités sur un thème bien précis. Et ce matin, on reçoit dans nos studios Gérard Saint-Maxin, maire de Chaux et vice-président aussi à la communauté de communes.
Également, oui, cette charge-là.
Et ainsi que Claude Wallendorf, maire de Givet, conseiller départemental et premier vice-président à la communauté de communes, Ardennes, Rive de Meuse. Bonjour, messieurs.
Bonjour, Rachid.
Bonjour, Rachid. Bonjour à tous.
Bonjour, Gérard. Et bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de Radio Fuji.
Voilà, donc ce matin, je voulais annoncer en ouverture de ce réveil matin, ce mercredi, on va parler de la voie verte. Quel joli mot, voie verte, avec tout ce que ça représente, la voie verte, et surtout l'aménagement de la boucle de Chaux. L'occasion, messieurs, de faire un petit retour en arrière sur, si on peut, l'historique de cette voie verte. Claude.
Oui, alors Gérard aurait peut-être pu aussi bien la faire que moi, mais finalement, après coup, c'est quand même moi qui connais le mieux l'histoire de cette affaire, vu mon antériorité de directeur général des services de la communauté de communes Ardennes-Rive-de-Meuse et de conseiller général à l'époque du canton de Givet. Donc en fait, il faut se souvenir que la voie verte, c'est un vieux projet. La voie verte, c'est quoi une voie verte? Une voie verte, c'est une voie de circulation qu'on peut qualifier de lente et d'écologique. C'est ce que nos amis wallons appellent le Ravel, le réseau autonome à véhiculation lente. Alors cette idée est une vieille idée d'aménager une voie verte le long de la Meuse, puisque lorsque Georges Daumal était président du district de la région de Chaux, il y avait déjà eu à l'époque une réflexion sur l'aménagement d'un itinéraire pédestre et cyclable sur les anciens chemins de halage le long de la Meuse, à l'exemple de ce qui se faisait dans la communauté de communes de Cattenom, puisque les communautés de communes qui portent des centrales nucléaires sont très amies les unes des autres pour se renvoyer leurs bonnes pratiques et puis aussi malheureusement leurs mauvaises expériences, ce qui fait qu'à l'occasion d'un déplacement sur le site de la centrale de Cattenom, nous avions découvert que nos amis de la communauté de communes du pays de Cattenom avaient très près de chez eux une voie verte qui longeait la Moselle et qui allait jusqu'à la frontière luxembourgeoise à Schengen. Ça ne s'invente pas, c'est bien Schengen. Cet aménagement nous avait intéressés. Nous sommes allés voir avec une délégation en car, on était bien une bonne trentaine de personnes, conseillers communautaires, membres de la commission de l'action économique. Et je me souviens, il y avait même Michel Jomotte d'Aubrive, l'ancien directeur du port de Givet, qui était présent. Nous avons été séduits par cette idée et nous nous sommes dit, eh bien, il faut que nous fassions la même chose sur le territoire du district qui allait à l'époque de Givet le long de la Meuse. Je ne parle pas de Landrichamps qui n'est pas sur la Meuse, qui allait à l'époque de Givet jusque Fumé. Et nous avons sollicité VNF, on devait être à la fin des années, à la fin des années 90, à la fin des années 90, dans le but de savoir s'il nous autoriserait à avoir une servitude d'usage sur les chemins de halage, afin que le district puisse aménager donc cette voie verte qui aurait relié Fumé à Givet sur l'ancien chemin de halage. Et sur ces entrefaites, il s'est trouvé que le département des Ardennes a eu la même idée, mais de le faire non pas seulement de Fumé à Givet, mais de Charleville-Mézières à Givet. C'est ainsi que VNF a préféré contractualiser avec le département plutôt qu'avec le district. Voilà le préambule, voilà d'où est venue l'idée communautaire et districale d'avoir cette voie verte.
Gérard, un petit mot sur cette voie verte.
Ben effectivement, c'était une très bonne idée. D'ailleurs, on a pour témoin le nombre important de personnes qui l'utilisent maintenant d'année en année. On a les chiffres de comptage, ils augmentent régulièrement. Donc, ce qui prouve que cette idée qui était à l'origine ben, givetoise est devenue maintenant départementale. Et qu'en fin de compte, c'était une très bonne idée compte tenu de un petit peu la déshérence du département. Alors, effectivement, c'était bien beau de faire tout ça, mais il y avait quelque chose de ce chaînon manquant. Ce chaînon manquant, nous l'entendons depuis longtemps, c'était un petit peu, si vous voulez, c'est l'Arlésienne. savez, cette jolie femme dont on parlait beaucoup, qu'on ne voyait jamais. Donc on savait que cette boucle allait être jolie, mais on aurait bien voulu la voir concrétisée. Bon, maintenant, ça y est, ça va se faire. Et déjà, nous, en la commune, nous y avons travaillé en amont. Tout simplement qu'une voie verte, c'est pas quelque chose qui est destiné à traverser le département très vite. Mais il faut encore avoir des points d'intérêt, savoir retenir les touristes et leur montrer que les Ardennes, eh ben, chaque ville, chaque village a son attrait, a des intérêts, de façon à fixer un petit peu, si vous voulez, les touristes sur place.
Oui, on connaît l'importance de cette voie verte maintenant qui, j'allais dire, qui part d'ici jusque Charleville, mais même plus que Charleville, s'arrête, je crois pour l'instant, si mes souvenirs sont bons, à Mouzon. Oui. L'importance, Claude, de cette voie verte. Évidemment, derrière, il y a un objectif important en termes de tourisme, même au niveau économique aussi.
Alors effectivement, donc Rachid, tu viens de dire que depuis la création de cette voie verte entre Charleville-Mézières et Givet, le département des Ardennes, devant le succès que cet équipement a rencontré, a décidé d'en faire davantage. Alors le projet qui est actuellement en cours de réalisation, c'est un projet entre Charleville-Mézières et la frontière du département de la Meuse, d'une part, et puis il y a une réflexion sur la création d'une autre voie verte le long du canal des Ardennes, qui relierait Pont-à-Bar, hein, puisque je crois que le canal des Ardennes arrive à Pont-à-Bar, jusque l'Aisne, de manière à ce que le département, notre département, soit traversé par trois itinéraires pédestres et cyclables, ce qui permettrait d'attirer davantage de touristes, parce que comme l'a dit Gérard, il est vrai que le vélo aujourd'hui attire énormément de touristes. On a des exemples qui sont des exemples bien connus. Bon, par exemple, la Loire à vélo, hein, qui attire énormément de visiteurs, ou plus loin de chez nous, le Danube à vélo, ou toutes les pistes cyclables et pédestres qui ont été réalisées en Alsace, avec des routes Eurovélo, hein, qui sont numérotées de 1 à 13 pour le moment. Et on sait que les personnes qui empruntent la Loire à vélo dépensent 10 euros par jour et par personne le long de... Non, ça doit être 100 euros par jour et par personne le long des itinéraires. Donc, économiquement parlant, c'est extrêmement intéressant.
On va continuer à parler de la voie verte avec tout ces bienfaits, on va dire, hein, tout ce que cette voie verte peut apporter. On sait que vous êtes nombreuses et nombreux à l'emprunter. On parle de vélo, mais on la fait en courant, en marchant, en roller, vraiment, on peut la faire comme on veut. Vous allez voir que beaucoup d'ailleurs ont essayé et ont pris cette voie verte. On se rappelle d'ailleurs cette petite vidéo qui a circulé par le biais d'un journaliste qui a tenté l'expérience de partir depuis Charleville jusqu'à que j'y vais et c'était vraiment une réussite. Gérard, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo de ce journaliste.
Non, je ne l'ai pas vu. Mais je vais rebondir sur ce que tu disais sur cette voie pour tout le monde, hein, où je suis souvent en colère quand je vois un groupe de personnes habillées en verluisant, enfourchées des vélos, foncées, tête baissée, de façon à avaler le plus de kilomètres en moins de temps possible. D'abord, la vitesse est limitée à 30 km/h sur la voie verte, là, ils y sont bien au-dessus. Et en fin de compte, ils sont là au mépris des autres usagers qui sont en roller ou à pied. Donc c'est un petit peu cet aspect sécuritaire qui me gênait.
Oui, alors tu as raison Gérard, mais je voudrais bien qu'on revienne à l'historique, hein, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure au sujet de l'idée du district, c'était vraiment les premiers pas vers la création de cette voie verte. Donc j'en reviens à l'idée qui a été reprise par le conseil départemental, en gros à la fin des années 90 ou au début des années 2000, de l'aménager lui-même entre Charleville-Mézières et Givet. Donc à l'époque, le département a animé de nombreuses réunions de travail avec les entités concernées, de manière à définir le tracé. Sachant que l'idée de base était, on suit le chemin de halage, là où il y en a. Mais à certains endroits, il n'y avait pas de chemin de halage. C'est le cas entre Chaux et Ans-sur-Meuse. Puisque entre Chaux et Ans-sur-Meuse, ou plutôt entre Ans-sur-Meuse et Chaux, lorsque l'on descend la Meuse, on passe dans le tunnel canal qui est sous la route départementale en Surmeuse, de manière à contourner la boucle de Chaux. Il n'était pas possible, évidemment, à la voie verte de passer dans le tunnel canal, ni de contourner la boucle de Chaux par la rive droite, parce que, questionnement posé à l'époque à la centrale de Chaux, il n'était pas possible de passer par la boucle de Chaux dans la rive droite, du fait, d'une part, de la présence du CNPE, sur la rive gauche, et d'autre part de la présence de la Sena, l'ancienne centrale de Choix, sur la rive droite. C'est pourquoi le conseil départemental, à la demande d'EDF-CNPE, et même d'EDF plus haut que le CNPE, a été contraint de quitter la rive de la Meuse à An, de traverser le pont pour arriver sur la rive gauche et de prendre ensuite les routes départementales, la RD 46, ça doit être la DC et la DA, passer par la route qui mène à Chaux et revenir à Chaux en longeant la départementale pour retraverser la Meuse sur le célèbre pont de Chaux, atteindre le Petit Chaux et reprendre à cet endroit le chemin de halage pour gagner la Viette, et ensuite j'y vais. Voilà, voilà pourquoi ce chaînon manquant existe. C'est en fait du fait de la présence des deux centrales. Et à l'époque, on avait considéré que, comme il n'y avait pas possibilité de faire autrement, c'était toujours mieux que rien. Sauf que, devant le succès de la voie verte, et il s'est avéré que pour un cycliste, et sans doute encore plus difficilement pour un piéton, pour un cycliste, emprunter cet itinéraire, c'est dangereux. C'est dangereux pour deux raisons. D'abord, la pente à la sortie du pont de l'Arsur-Meuse est forte. C'est ainsi qu'il y a eu des accidents, dont malheureusement un accident mortel. Et d'autre part, longer la route qui mène du rond-point de Chaux jusqu'au grand rond-point de Chaux jusqu'au petit rond-point de Chaux, il y a une forte circulation de tous les gens qui vont à Chaux ou de tous les gens qui vont travailler à la centrale, ce qui fait que pour les vélos, ça n'était pas extrêmement sécurisant. Et à ce moment-là, dès qu'on a pu constater le succès de la voie verte, dès qu'on a pu constater la difficulté pour les usagers d'emprunter cet itinéraire que je vais qualifier d'itinéraire bis, la communauté de communes, à l'époque, puisqu'on n'était plus district, on était devenu communauté de communes, a eu comme idée de faire en sorte que le chaînon manquant, ce que nous appelons la boucle de Chaux, en rive droite, puisse être terminé pour éviter aux usagers de prendre ce parcours difficile et dangereux le long de la route départementale.
Effectivement, je t'abonde ici, Claude. Est-ce que c'est tellement dangereux que la gendarmerie a placé un cinémamètre et ils en ont flashé à 130 km/h.
Des vélos, Gérard?
Non, même pas.
Des voitures.
130, mais alors que les vélos étaient sur le bas-côté, donc ouais. c'est impensable. Et ça sera comme une sécurité maintenant pour les usagers de faire le grand tour. Et il ne faut pas oublier que quand on a un arrêt de tranche, c'est 3000 personnes qui empruntent cette route-là journellement.
En effet. Alors Gérard, je te fais une supplique, puisque tu auras bientôt une belle gendarmerie toute neuve à l'entrée de Chaux à gauche, est-ce que tu pourrais leur demander qu'ils installent un radar sur la RC pour pouvoir flasher et verbaliser les contrevenants. Je parle des automobilistes, naturellement, voire même peut-être, puisque j'en ai entendu parler, des gens qui circulent avec des vélos électriques et qui peuvent atteindre une vitesse de 50 à 60 km/h.
Effectivement, oui. C'était un petit peu la raison de ma supplique tout à l'heure contre ces escadrilles de vélos qui descendent la voie verte.
Les vers luisants, ça fera plaisir à Bernard Decaen. Nous sommes en train de parler des vers luisants, parce que lui qui est un adepte du vélo, vers luisants.
En tout cas, ce chaînon manquant, on va continuer d'en parler juste après une pause musicale. Reste avec nous.
Fuji FM. Puisque la vie s'affale au contre-la-montre, puisqu'il n'y a rien que dalle qui résiste avec le temps, je préfère l'aventure à tous les grands discours, les points de suspension, les allées sans retour. Je marche comme l'on crève, puisque tout meurt d'ennui. Je refuse de choisir, je ne compte pas, je vis. Pas de quoi en faire un drame, je respire à plein poumon les victoires, les défaites, je préfère l'aventure. Sans le moindre mal, sans le moindre signe, sans le moindre charme, à bord d'une vieille routine, à l'assurance lamentable, un vague souvenir peut devenir un idéal. Et face aux certitudes, jetées à l'emporte-pièce, je suis prêt à payer le prix de mes errances. Et même en petite coupure, qu'importe les points de suture, qu'importe la blessure, je préfère l'aventure. Moi je préfère l'aventure. Moi je préfère l'aventure. Moi je préfère l'aventure. Et si l'on me demande, je rentre après la nuit. Quand tout sera éteint, quand tout sera fini. Et si l'on me demande, je rentre après la nuit. Quand tout sera éteint.
Merci, de retour en direct pour continuer à parler de la voie verte. D'ailleurs, je me permets, si vous avez envie, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, vous nous appelez au 03 24 41 59 00 concernant cette voie verte et l'aménagement de la boucle de Chaumont. On va revenir à ce chaînon manquant, mais on était dans l'historique. Et c'est vrai que faire un retour en arrière pour voir un petit peu comment a été mené ce projet, on est en train de parler hors antenne. On est en train de dire, messieurs, que c'est fait tronçon par tronçon.
Oui, effectivement. J'ai parlé tout à l'heure de l'inauguration de la voie verte qui a été réalisée en juin 2008 parce qu'elle était totalement faite, sauf le chaînon manquant entre Vin-sur-Meuse et Chaux. Mais on se rappelait là qu'en réalité, elle avait été ouverte tronçon par tronçon. Le premier tronçon a été celui entre Charleville-Mézières et Nouzonville, où nous étions à l'inauguration avec Marcel Vigneron, qui à l'époque était président de la communauté de communes, et successivement, tronçon par tronçon, il a remonté vers le nord. Ce qui fait qu'on a eu l'occasion, même avant son inauguration, de s'apercevoir à quel point elle rencontrait du succès auprès des usagers. Et c'est ainsi qu'à partir de 2005-2006, la communauté de communes s'est dit « ça n'est pas possible qu'on ait, nous, un chaînon manquant entre Vin-sur-Meuse et Chaux, il faut que la voie verte soit complète et qu'on puisse aller à vélo de Charleville-Mézières jusqu'à Givet sans être obligé d'emprunter les routes départementales. » Et justement, aussi pendant la partie, Gérard Saint-Maxin nous disait que, enfant, il avait eu l'occasion de... Mais je vais te laisser la parole, Gérard, je ne vais pas raconter ça à ta place.
Bon, merci, Claude. Mais bon, effectivement, ce chemin du halage existait, de la boucle de Chaux existait depuis très longtemps, mais il est tombé en déshérence à la suite du percement des tunnels, où là, il n'y avait plus lieu de traîner les péniches. Et je me souviens que bon, j'avais 12-13 ans quand j'allais à la pêche, à l'île du Gistrois, il restait encore les restes, une péniche à fond plat, les gabarres qu'on trouvait sur la Loire. Et cette péniche-là avait été accidentée, abandonnée, ce qui prouve bien que la navigation existait déjà avant le percement des tunnels. Bon, et après, ça n'avait plus lieu d'être, donc le chemin est tombé en déshérence. Ouais.
Mais donc l'homme est passé par là à une certaine époque. Donc je reviens sur l'historique de la boucle de Chaux. Et donc, je disais que devant le succès rencontré par cet aménagement dans les premiers tronçons, c'est en 2005-2006 que la communauté de communes a commencé à se dire « il faut vraiment qu'on obtienne du département que le chaînon manquant soit réalisé ». Et la communauté a repris contact avec le département pour engager des négociations afin de voir dans quelles conditions cet aménagement pourrait être réalisé. Alors le département a commencé par répondre que c'était difficile, voire impossible à cause du CNPE. Ce qui fait que la communauté de communes a pris la tâche du CNPE. À l'époque, c'était Jean-Paul Joly qui était directeur du CNPE. Et après quelques échanges et quelques discussions, nous avons obtenu une lettre signée du CNPE nous disant qu'il ne voyait plus d'inconvénient à ce que la voie verte passe en rive droite de la Meuse le long de la boucle de Chaux face à la centrale de Chauvet et devant le Sénat. Il faut dire aussi à l'époque que le démantèlement de la Sénat avait bien commencé et qu'il était possible de passer pour des personnes ordinaires devant, je dirais même oui, devant la Sénat, puisqu'on passe devant la Sénat. Voilà. Et donc, à partir du 22 octobre 2009, date à laquelle nous avons eu cet accord du CNPE, eh bien, nous avons pu exhiber cet accord au département et après encore quelques tractations et quelques palabres, obtenir du département qu'il engage l'étude de l'aménagement de ce chaînon manquant et même qu'il s'engage à participer au financement. Alors ça a été un peu compliqué dans la mesure où aménager 100 mètres de voie verte sur un chemin de halage plat et large entre Haybes et Vire-Valran, je prends cet exemple-là parce que c'est facile, c'est beaucoup moins coûteux que d'aménager une voie verte le long de la boucle de Chaux, où malheureusement le chemin de halage a disparu, et où la topographie est quand même assez difficile, avec en plus des zones humides à proximité qui sont importantes. Ce qui fait que l'accord trouvé entre le département et la communauté de communes a été de dire, pour le département, nous mettrons sur cet aménagement la même somme en euros pour 100 mètres parcourus sur un chemin de halage ordinaire qu'ailleurs. Et c'est la communauté de communes qui devra mettre le reste, compte tenu du fait que c'est la communauté de communes qui nous demande, à nous, département, de passer par là. Ce qui fait que lorsque ma collègue Isabelle Coquet et moi nous sommes présentés au Conseil Général en mars 2008, si ma mémoire est bonne, dans notre programme électoral, nous avions mis que nous agirions et que nous œuvrerions pour que la voie verte soit terminée entre Vent-sur-Meuse et Chaux. Ça a été le coup d'envoi d'une procédure qui a été assez longue et qui était aujourd'hui en passe d'aboutir.
Ouais, ce que j'allais dire, c'était vraiment un combat. On a suivi un petit peu toutes les réunions pour mener à bien ce projet.
Bah, ça n'a pas été au niveau de la communauté de communes. Tout le monde était absolument d'accord pour ça. Donc il n'y a vraiment pas eu de combat au sein du conseil de communauté. Hein. Bon, il y a eu quelques problèmes dans la commune de Chaux, mais je vais laisser Gérard en parler puisqu'il est directement concerné. En fait, il y avait des gens, je ne les nommerai pas, qui ont cru que, en fait, tout ce qu'on faisait à la communauté de communes et au conseil départemental pour terminer cet aménagement, c'était, entre guillemets, du pipeau. Et qu'en réalité, on ne voulait pas le faire. À tel point que, lorsque nous avons obtenu, Isabelle Coquet et moi, que les aménagements de sécurité soient réalisés le long de la RD46DA, qui relie le grand giratoire de la RD8051 au petit giratoire d'accès à la centrale, certains élus, à l'époque ils étaient élus, certains élus du conseil municipal de Chaux ont cru que c'était un succès d'année, que c'était une variante qui ensuite nous empêcherait de réaliser la boucle de Chaux. On leur a dit, mais bien sûr que non, on a organisé des réunions, le département est venu, M. Fontenier qui est chargé du dossier, dans le but de convaincre ces personnes que nous n'étions pas de mauvaise foi, et que les aménagements le long de la RD4600 n'étaient que du provisoire, en attendant le tracé définitif, qui est assez compliqué à faire, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, depuis 2008, la volonté de tout le monde, en tout cas de ceux qui agissent, hein, parce qu'il y a des gens qui parlent, mais il y a des gens qui agissent. Donc la volonté de tous ceux qui agissent, c'est effectivement de terminer cet aménagement.
Gérard.
Oui, ben, effectivement, donc de ce côté-là, le maire est quand même responsable de la sécurité des personnes et des biens, et c'était quand même une très bonne idée que le conseil départemental puisse élargir la voie, d'avoir deux pistes cyclables de chaque côté, de façon à sécuriser les gens, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, compte tenu de la portance du trafic qui était là. Mais en aucun cas, ça n'allait mettre en frein au développement du projet initial. Et d'ailleurs, après, nous avons déjà travaillé sur cet aménagement du projet, car la commune va prendre aussi une grande part, à savoir que c'est une chance d'avoir ce flot de touristes qui va traverser la commune. Ça sera une chance à nous maintenant de développer l'impact économique que ça peut avoir sur le plan local. Tant pour les commerces, tant que même des métiers à créer. Par exemple, vous n'avez pas d'atelier de réparation des vélos. Et certains cassent une chaîne ou grèvent, souvent sont en panne de matériel et sont en déshérant sur la voie, ils ne savent pas réparer. Donc ce sont peut-être des petits métiers qu'on pourra, nous, développer sur place. La restauration n'existe pas, le toilette public n'en a pas. Donc voilà des choses qui sont à créer, sur lesquelles on s'est commencé à se pencher, nous, et nous avons déjà budgétisé sur le plan au conseil municipal certaines sommes pour développer ce qui manque un petit peu. Je ne dis pas que ce sont des lacunes, mais le fait, l'engouement est tel que c'est à nous maintenant de nous adapter à ce flot de touristes.
Alors, Gérard a parfaitement raison. Il voit d'une manière remarquable la chose. La voie verte, elle est agréable pour que les gens viennent, mais il faut surtout que les gens s'arrêtent. Parce que voir un ver luisant rouler à 30 km/h le long de la voie verte entre Charleville-Mézières et Givet, bon, il peut le faire en une journée s'il va vite, c'est pas intéressant pour le tourisme. Ce qu'il faut, c'est qu'il s'arrête pour consommer dans les restaurants, pour faire réparer son vélo, etc., etc. C'est ce que les Alsaciens ont particulièrement bien compris, puisque de leur véloroute, vous avez des boucles qui partent pour les amener dans ce qu'il y a de beau à voir, dans ce qu'il y a de bon à consommer, en arête de poisson, le long de la voie verte. Ça, c'est vraiment, pour le conseil municipal de Chaux, quelque chose de remarquable d'avoir pensé à ça. Et il faut que, à l'échelle de la communauté de communes, on généralise cette initiative de la commune de Chaux pour que les gens puissent essaimer sur le territoire communautaire et consommer.
Et pour l'instant, c'est ce qui se fait. On s'arrête.
Non, franchement, c'est pas organisé, honnêtement. Il n'y a pas, et je le regrette personnellement, il n'y a pas d'organisation pour que les gens essaiment de la voie verte. Il faudrait qu'il y ait de place en place des bornes d'information relais. Je vous dis, moi je les ai vues en Alsace, des bornes d'information relais pour dire voilà, vous arrivez le long de la voie verte à fumer. Si vous sortez 500 mètres, vous avez une pizzeria rue du Château. Si vous faites 400 mètres, vous avez une grande surface où vous pourrez acheter de l'eau, des choses comme ça, une pharmacie où vous pourrez acheter des... Là, nous, il faut que la communauté de communes, une fois que ça sera terminé, fasse des efforts pour inciter les gens à sortir de la voie verte. Éventuellement, pour aller dormir dans un hôtel, poser le vélo et repartir le lendemain. Mmh. Il faut aussi qu'on arrive à créer une dynamique avec la SNCF pour qu'on puisse circuler dans les trains facilement avec son vélo. Voilà.
Je te coupe, pardon. Mais c'est un cabotage, par exemple. Vous voyez, avec la SNCF, on prend le vélo, on va jusque Charleville, on sait qu'on pourra revenir, qu'il n'y a pas de problème de voiture. Journée. On vient de la journée, et les choses sont faites. Alors, c'est vrai que le conseil départemental a mis un remarquable outil entre nos mains, mais c'est aux communes et aux communautés de communes de savoir l'utiliser, de profiter de ces opportunités. On ne va pas demander au département de faire notre place.
C'est pas son rôle.
Voilà, donc maintenant, vous avez quelque chose de bien, au moins ayez le courage de vous en servir.
Oui. Et donc, la commune de Chaux l'a bien compris, mais il y a une autre commune qui l'a bien compris, c'est la commune de Hem. Hein. J'excuse mes Moissonnais qui ne peut pas être là aujourd'hui. La commune de Hem a remarquablement joué le jeu. Hein. Ils ont aménagé ce qu'ils appellent la maison des randonnées, où vous pouvez louer des vélos pour aller sur la voie verte. C'est vraiment ce genre d'initiative qu'on doit développer partout. Bon, il ne faut pas louer des vélos tous les 5 km, parce qu'il n'y aura pas de chiffre d'affaires pour tout le monde. Mais il est dommage, par exemple, qu'à Givet, qui est quand même une commune de 7000 habitants, qui est un nœud touristique en développement de la communauté, à ma connaissance, il n'y a pas de location de vélo. À ma connaissance.
Alors, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire avec le jeteau de la Viette.
Oui,
on a passé une convention de façon qu'il puisse avoir des vélos sur place.
Sur bon, place.
Après, si tu veux le développer sur Givet, pas de souci, Claude, hein, c'est pas de problème.
Ah ben nous, on laisse la place à l'initiative privée.
Bon, comme tu veux.
Un autre point noir, rapidement, Claude, en tant que là, conseiller départemental, c'est le problème soulevé d'ailleurs par celles et ceux qui ont eu l'occasion d'emprunter cette voie verte, arriver notamment à Revin avec ce fameux pont, là, où ils rencontrent souvent des problèmes.
Il y a des problèmes avec un pont à Revin.
Oui, quand on arrive à Revin, le fameux pont qui ensuite emmène vers Orzy.
Alors, je suis allé jusque Revin à vélo, et donc je me suis arrêté au pont canal. Je ne suis pas allé plus loin. Alors le pont canal, il y a déjà un gros problème, c'est qu'à l'origine, il y avait un éclairage qui se mettait en place au fur et à mesure où le piéton ou le vélo avançait. C'est ça le problème.
Ouais, juste en dessous.
Alors, cet éclairage, il ne fonctionne plus depuis le début de cette année, ce qui est un gros handicap quand on passe dans le pont canal. Le conseil départemental est bien conscient du problème. Il a demandé à l'entreprise qui avait installé cet éclairage de le réparer, mais pour tout un tas de raisons, ça n'a pas encore pu être fait. Et moi, ça m'agace prodigieusement, parce que on a la voie verte qui est un véritable écrin, et un endroit où ça ne va pas du tout, quoi. Donc, je à titre personnel, quoique je ne suis pas concerné, on est dans le canton de Revin, hein, c'est pas le canton de Givet. Isabelle et moi ne sommes pas concernés. On est en train de faire le maximum pour que ça puisse être réparé pour le printemps prochain.
Voilà, ce qui nous amène, donc, pour revenir à ce chaînon, c'était vraiment le point noir de ce projet de voie verte. Finalement, ce qu'on peut dire, que ça y est, c'est fait. J'ai vu que les travaux allaient commencer bientôt, c'est fin 2017-2018.
Alors, on ne peut pas dire ça aussi catégoriquement. Et je terminerai par là, parce que je vois 8 heures qui arrivent bientôt. À partir du moment où le conseil départemental a pris la décision en accord avec la communauté de communes de réaliser cet aménagement, il y a eu, et ça, beaucoup de gens ne l'ont pas compris, il y a eu toute la phase nécessaire aux études préalables. Voilà, puisqu'on est dans un secteur où l'homme ne passait plus beaucoup, et donc quand vous faites ce genre de, quand vous voulez faire ce genre de travaux, bah, nous sommes en France, il y a tout un tas de dossiers à déposer, des dossiers loi sur l'eau, des dossiers faune-flore, il faut compter la nature des arbres, il faut aller voir s'il n'y a pas des espèces protégées par-ci, par-là, et tout le monde sait que à partir du moment où la nature reprend ses droits dans un territoire où l'homme, à part les chasseurs et les promeneurs, ne passe plus beaucoup, eh ben, des espèces protégées, il y en a toujours. Bon, je ne citerai pas le cas des chiroptères. Il y a des myriades et des myriades de chiroptères, mais on continue à dire que c'est une espèce protégée. Enfin, bon. Et ça prend énormément de temps. Donc le conseil départemental a été obligé de passer tout ce temps-là pour réaliser toutes ces études faune-flore, loi sur l'eau, etc., etc., études parcellaires, voilà, donc tout un tas de choses qui prennent du temps, qu'on ne peut pas faire à la va-vite, d'autant que pour une étude faune-flore, vous êtes obligé de la faire sur toute une année, de manière à ce qu'il y ait les 4 saisons dedans, de les confier à des bureaux d'études spécialisés. Ça a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, toutes ces études que le département a réalisé en accord avec la communauté de communes sont terminées, et c'est pour ça que le dossier a pu être mis à enquête publique. Dossier loi sur nous à enquête publique, il est encore temps d'aller le voir en mairie de Vent-sur-Meuse ou en mairie de Chaux, et ce n'est qu'à l'issue de l'enquête publique qu'on pourra dire si l'avis du comité enquêteur est favorable, si le préfet prend derrière son arrêté, que les travaux vont réellement commencer. Mais aujourd'hui, les travaux ne sont que des projet dont la bonne réalisation dépend du résultat de l'enquête publique.
Même si on nous indique que ça devrait démarrer en 2018, fin
de... Devrait, c'est le conditionnel, Rachid.
Mmh. Enfin, on va dire que la voie sur la bonne voie.
C'est ça.
Pour terminer, Gérard, tu parlais tout à l'heure de projets.
Ben, les projets à venir. À venir, oui, parce qu'en fin de compte, on s'est aperçu que ce qu'il nous faut, si vous voulez, c'est une zone, comme je vous l'expliquais, où les gens pouvaient s'arrêter. Mais également, il y avait une lacune dans tout le département, c'est qu'on avait en projet de faire des zones, des pontons de pêche pour pêcheurs handicapés. Et ça, il y en a assez peu. Donc, voir avec VNF, parce que comme disait Claude, la loi sur l'eau, ça ne va pas être simple non plus. Là, j'ai encore des dossiers à monter. Mais ça fait partie de nos idées, de nos projets, mais qu'on peut encore faire évoluer. Maintenant, on sait que ça va se faire. La loi, on en est certain. À nous de travailler, à nous de trouver des idées. Et en fin de compte, c'est peut-être l'imagination qui peut nous manquer après.
Très bien, on arrive à la fin de cette émission, on a un petit peu débordé. Merci d'être venu nous éclairer sur...
Avec plaisir.
Sur ce projet de la voie verte et de ce chaînon manquant.
Je croyais qu'on allait jusqu'à 8h30. Mais...
C'est jusqu'à 8h.
Ah, je croyais que c'était jusqu'à 8h30, mais j'avais pas tout dit, moi j'ai encore des choses à dire. Voilà, c'est... donc effectivement, très, très très brièvement, si tu permets, en demandant à nos éditeurs de nous pardonner ce débordement, effectivement, donc si tout va bien, les travaux devraient commencer en septembre 2018, voilà. Parce qu'on ne peut les faire qu'en période hivernale ou automnale. On ne peut pas les faire à la belle saison, toujours à cause des études faune-flore. Donc, on a réussi entre-temps à trouver des accords sur le financement des travaux, parce que le projet a pu être approuvé dans le cadre d'un projet Interreg 5 qui s'appelle Ardennes Cyclo, qui déborde lourdement la boucle de Chaux, parce que ça concerne aussi la communauté de communes des Portes du Luxembourg, ça concerne aussi la communauté de communes Vallée et Plateau d'Ardennes avec sa transe semoisienne, qui est une réalisation remarquable, et puis de l'autre côté de la frontière, nos amis wallons, notamment en ce qui nous concerne, la commune de Bourin. L'accord de financement d'Interreg 5 permet d'obtenir des subventions du FEDER qui vont diminuer la participation de la communauté de communes. Nous avons également la région Grand Est qui s'est engagée à nous aider à boucler le plan de financement. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que la communauté de communes, pour sa part, même si le département s'est occupé des études de loi sur l'eau, faune-flore, environnement, de l'enquête publique, etc., etc., en accord avec le département, c'est la communauté de communes qui s'est occupée de s'assurer la maîtrise foncière pour pouvoir faire passer la voie verte dans des propriétés privées. Alors, il y avait une bonne dizaine de propriétaires. Ça a été assez compliqué d'arriver à obtenir progressivement l'accord de tout le monde de façon à échapper à quelque chose qui aurait considérablement retardé l'exécution du projet, c'est-à-dire des procédures d'expropriation. On a réussi à tout négocier à l'amiable avec des propriétaires qui étaient parfois pas très enclins à bien vouloir nous céder leur parcelle, notamment des sociétés de chasse. Les chasseurs aiment bien être tranquilles, et on les comprend d'ailleurs. Et je profite de l'occasion pour remercier sincèrement et chaleureusement la commune de Chaux et son maire Gérard Saint-Maxin, la commune de Hans-sur-Meuse et son maire Jean-Claude Jacquemart, qui ont aidé la communauté de communes et le département à mener à bien toutes ces transactions pour acquérir la maîtrise foncière du passage de la voie verte dans la boucle de Chaux. Voilà, et j'en terminerai par là.
Gérard, mot de la fin.
Effectivement, maintenant, ça sera une happy end, on va espérer. Maintenant, à nous de retrousser les manches et d'y travailler.
Voilà, donc merci d'avoir été avec nous. Évidemment, on aurait pu encore en parler pendant des...
C'est pas grave, on va attendre, si tu veux bien, le résultat des enquêtes publiques. On verra s'il y a des commentaires qui ont été mis dessus. J'espère qu'ils seront tous favorables. Et puis, bon, on peut te proposer de refaire quelque chose... Au printemps prochain pour pouvoir parler du calendrier des travaux cette fois-ci. Hein. Mais une chose est sûre, ça sera un parcours extrêmement sympathique, même s'il ne sera pas complètement plat, mais je pense que les gens apprécieront, parce que l'endroit, c'est vraiment un endroit merveilleux, cette boucle de Chaux.
Voilà, c'était donc Claude Wallendorf avec nous, maire de Givet, conseiller départemental, vice-président à la communauté de communes, Gérard Saint-Maxin, maire de Chaux et vice-président à la communauté de communes aussi. Merci d'avoir été avec nous et à une prochaine émission pour éventuellement continuer à parler de ce projet de voie verte avec les derniers travaux et ce chaînon manquant. Merci d'avoir suivi cette émission. À ne pas oublier de remercier notre partenaire, la boulangerie Porcelli, Petit Givet pour ce petit déjeuner avec nos invités. Merci.
Merci Jean-François, merci. Et merci à tous les auditeurs.
À bientôt.
Merci Eric, la suite du programme.